Alors, nous, on s'est intéressé vraiment dans ce rapport à notre rapport sensible à la ville, parce que la ville, avant de la voir, on la sent. On est équipé de tout un appareil sensoriel qui nous permet de nous situer dans l'espace. Et je vais vous citer une Agnès Lévite, qui est une chercheuse en design urbain, qui a parlé de cette expérience sensible du piéton dans la ville. Donc, elle dit qu'on peut considérer que la marche en ville est une suite de petits moments quasi théâtraux dans lesquels s'imbriquent des coups d'œil plus ou moins longs, des croisements de regards parfois accompagnés d'échanges verbaux, des avertissements sonores ou des moments musicaux mêlés des effluves odorants ou nauséabonds, des pensées fugitives ou des réflexions profondes, des émotions vives et des plaisirs fugaces, des frayeurs soudaines, puis de paisibles instants que l'on croit neutres et vides, pendant lesquels notre flux visuel est empli d'objets, de mouvements, d'hommes et de femmes captés par la vue, l'odorat et l'ouïe, de multiples indices dont bien peu parviennent à la conscience. Donc le fil conducteur de notre revue, ça a été de dépasser la dimension de nuisance souvent attachée au son pour appréhender leurs aspects utiles ou agréables et ainsi donner des ressources aux aménageurs et architectes qui souhaiteraient donc dépasser cette notion relativement négative du son.
Donc, à nos yeux, le son représente une manière parmi tant d'autres d'appréhender la compréhension des sociétés. Je vais essayer de revenir le plus brièvement possible sur les sons urbains dans le temps et dans l'espace afin de montrer qu'on peut y appliquer une approche culturelle. Prenons tout d'abord l'exemple du Moyen-Âge. Écoutez notamment la restitution sonore du quartier du Grand Châtelet à Paris. C'est un projet tout à fait intéressant de la part de la musicologue Mylène Pardoel. Au Moyen-Âge, dans une société où l'oralité prédomine, les sons étaient un objet très important de la vie quotidienne. Les informations circulaient notamment, principalement par la voix, qui était le mode privilégié de transmission des connaissances, du fait d'un taux d'analphabétisme qui est très élevé. Les voix, les cris remplissaient une fonction sociale, notamment dans la communication marchande ou la transmission des nouvelles. Un autre son caractéristique du Moyen-Âge que nous avons identifié, c'est le tintement des cloches, qui devenaient des marqueurs en fait, importants de la vie quotidienne des populations des villes et des campagnes, puisqu'elles sonnaient régulièrement à travers les différents offices religieux, donc l'Angélus, les Vêpres, et pour un certain nombre de foyers, ça représentait des marqueurs temporels, donc l'heure du repas, l'heure de l'arrêt du travail, ce genre de marqueurs. Les sons sont donc particulièrement intéressants dans le contexte d'une société orale, et remplissaient des fonctions importantes au Moyen-Âge. On vous disait que le son pouvait se montrer représentatif des mutations d'une société. Et une des questions fondamentales que l'on s'est posée, c'est comment est-ce que les sons, un temps essentiel à l'espace urbain, en sont devenus à être presque exclusivement considérés sous son aspect le plus nuisible, c'est-à-dire le bruit. D'une part, au XXe siècle et au XXIe siècle, l'écrit avait déjà pris beaucoup de place, mais de plus en plus, c'est les images qui prennent le pas sur l'oralité. D'autre part, il y a également la révolution industrielle qui est passée par là, ainsi que le mouvement hygiéniste, et qui ont entraîné un fort changement dans la perception que nous avons des sons. Notre tolérance au son, par exemple, a continuellement baissé, alors que la qualité de vie continue à augmenter. Et au final, les sons de notre environnement direct sont de plus en plus assimilés à des nuisances ou à des gènes, d'autant plus que cela se fait dans un processus d'urbanisation croissante et d'une proximité toujours plus importante dans l'habitat. Un autre élément important quant au fait qu'on considère de plus en plus le son comme exclusivement du bruit, son aspect négatif, ce fut la démocratisation de la voiture. Ça a eu un effet décisif en effet sur la composition des environnements sonores urbains contemporains. On retrouve en effet les sons que la voiture émet au niveau micro, donc des signaux sonores comme les klaxons, le crissement des pneus, le bruit des moteurs, mais on retrouve également au niveau général le son qui est émis par le trafic, donc de manière plus globale. Donc c'est la sorte de fond sonore qu'on entend et qu'on distingue en ville si on y prête une oreille attentive. Donc le terme de bruit, il a historiquement évolué, le terme de son, pardon, a historiquement évolué et est presque exclusivement considéré aujourd'hui sous son aspect négatif, qui est le son, enfin, le bruit, pardon. Pourtant, est-ce qu'on peut imaginer seulement une ville silencieuse ? C'est un peu paradoxal par rapport à ses fonctions de réunir les personnes. L'étude du son donc, permet également de révéler la diversité des cultures à travers le monde. Cela clue à ses propres représentations culturelles du son, ses propres sonorités particulières, auxquelles nous pouvons accéder de nos jours beaucoup plus facilement grâce à la mondialisation et à la progression de la communication multimédia. Donc, pour nous, nous avons estimé que la perception d'un son comme du bruit, ça répondait à une culture particulière et du rapport particulier d'une culture qu'elle entretient par rapport au son. Dans des pays hispaniques, si vous y êtes déjà allé, dans des pays hispaniques comme le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, vous avez pu constater qu'une grande partie de la vie urbaine, la vie quotidienne, se fait à l'extérieur. Donc l'omniprésence des sons n'y est pas jugée sous son aspect nuisible, même si les villes souffrent parfois de problèmes comme de pollution sonore. Mais l'omniprésence des sons est vraiment considérée là-bas comme un élément essentiel de la vie urbaine quotidienne. Et c'est une construction à la fois historique et culturelle. À contre-courant, un contre-exemple des pays hispaniques, c'est plutôt l'exemple du Japon. On y retrouve une forte importance de la limitation du volume sonore, dans l'espace public notamment. Ça répond à une autre conception en fait, du respect qu'on comporte à l'espace public, du respect des autres. Et c'est vraiment une conduite... Il y a vraiment une culture du silence qui conduit certaines actions sociales. Tout cela nous montre donc que les cultures n'ont pas le même rapport au son. Changeons de sujet et parlons à présent de bruit, de santé et de prise en compte du son par les politiques publiques. Les villes donc sont souvent sujettes à des forts niveaux d'exposition sonore et sont les premières concernées par des problèmes comme le tapage nocturne, voire diurne, ou la pollution sonore. De plus, on sait aujourd'hui que le son ou l'exposition au bruit peut provoquer des problèmes de santé, qu'ils soient physiologiques comme évidemment la perte de l'audition, mais ça peut également provoquer des problèmes cardiovasculaires ou de l'hypertension artérielle. Les effets négatifs du son sur la santé peuvent également se révéler être psychologiques, donc avec par exemple des pertes, des troubles du sommeil, une montée de l'anxiété, voire une trop forte exposition au bruit peut également mener à la dépression, à une dépression, malheureusement. Tout cela justifiait l'intervention croissante des puissances publiques sur la question du son, au nom principalement de la santé publique et de la préservation de la qualité de vie de ses citoyens. La conception du son que les puissances publiques développent ainsi se réduit dans les espaces urbains aujourd'hui, selon nous, à seulement son aspect le plus nuisible, donc le bruit. Conséquence de cette vision du son comme une nuisance, les autorités ont mis en place divers instruments de lutte contre le bruit. Ils ont notamment mis en place des campagnes de sensibilisation et de prévention contre la dangerosité des bruits, par exemple pour sensibiliser les plus jeunes, les adolescents, les enfants, sur le danger que peut représenter l'écoute de la musique trop fort avec des écouteurs, par exemple. Les autorités mettent également en place au niveau local comme national et international, donc principalement au niveau européen, un ensemble de mesures réglementaires et législatives pour codifier notre rapport au son, dont on peut citer la mesure réglementaire suivante, qui est l'établissement du seuil de danger à 85 décibels et du seuil de douleur à 120 décibels. Enfin, pour éviter l'exposition sonore au bruit dans les villes, les autorités mettent en place ce qu'on appelle les cartes sonores, qui en gros correspondent à une sorte de diagnostic sonore d'un territoire, qui montre quelles sont les zones qui sont le plus exposées au bruit et quelles sont celles qui, au contraire, sont plus paisibles. Et on imagine que les cartes sonores peuvent également transmettre des informations sur l'identité des territoires. Enfin, les autorités mettent en place ce qu'on appelle des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ou PPBE, qui permettent de fixer le plan d'action des collectivités dans la prévention des effets du son. Donc nous avons qualifié dans notre vue d'objectif cette approche du son qui vise à contrôler, à maîtriser parfaitement le son et à le circonscrire à ce qu'en dit le droit. Cette approche, selon nous, a évidemment des apports, notamment dans la prise de conscience des effets réels sanitaires du bruit ou encore dans l'encadrement des activités les plus sonores qui, avant, n'étaient absolument pas régulées. En revanche, selon nous, cette approche que nous avons qualifiée d'objectif se révèle également assez étriquée, assez étroite et il convient de la dépasser. C'est vraiment l'objet de notre réflexion. Comme le montre Olivier Balay, qui est chercheur en urbanisme qui est docteur en urbanisme et chercheur au CRESSON, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Des politiques publiques orientées vers la réduction de tout type de son et la maîtrise du volume sonore en général correspond pour les autorités à ce qu'il appelle le fantasme de la maîtrise. Alors que dans la pratique, il n'est pas toujours facile, par exemple, de faire respecter les législations en vigueur. Nous considérons justement que le son doit faire partie intégrante de la fabrique de la ville, au-delà de la simple réduction des nuisances sonores. Selon nous, dès lors que le son est inscrit dans un cadre législatif et que l'on caractérise par différentes échelles d'écoute, c'est-à-dire donc les différents seuils, seuil de danger, seuil de douleur, ces différentes échelles d'écoute qui se veulent objectives, le son sera principalement défini par les autorités sous son aspect le plus négatif, sous l'aspect de la nuisance, et c'est ce que nous essayons de dépasser. À ce titre, nous défendons et privilégions une approche que nous disons subjective du son, c'est-à-dire que l'on souhaite valoriser le fait que le son est considéré personnellement par chacun. Certains aspects du son sont importants, mais occultés lorsqu'on réduit le son au simple bruit, par exemple son côté esthétique agréable ou encore son rôle culturel et identitaire. La considération que nous faisons, chacun d'entre nous, du son ne correspond pas à une classification nocive, non nocive pour notre santé, mais plutôt à travers une grille de lecture beaucoup plus personnelle, beaucoup plus complexe, qui dépend de nos goûts, de nos cultures et de nos expériences sensorielles uniques. C'est en cela que nous affirmons que le son doit répondre à une approche subjective et qu'il nous semble nécessaire de réfléchir à comment l'intégrer dans les aménagements urbains, dans l'architecture et dans l'urbanisme. Autrement, bien sûr, que dans le simple fait de s'assurer le simple respect des normes en vigueur, ce qui est malgré tout important, il faut quand même le dire. De nouvelles approches que vont nous présenter nos camarades en architecture peuvent être développées pour innover et mieux appréhender la question du son sous toutes ses formes.
Du coup, comme nous l'avons vu, la place des sons dans la ville et les débats qui en découlent sont de plus en plus importants. Et la prise en compte du son, du coup, ne peut pas se réduire à une simple gestion du bruit. Il devient donc nécessaire pour les autorités d'intégrer les aspects immatériels de la vie publique au sein des projets d'aménagement et des politiques publiques. Notre objectif, c'est du coup de développer une ville sensible malgré l'aseptisation grandissante des villes. Pour ce faire, il faut réfléchir en amont à l'acoustique du projet, c'est-à-dire à l'ambiance et à l'identité sonore qu'un projet va dégager. Mais pour mieux appréhender le son, il est nécessaire de le connaître et du coup de prendre conscience de la richesse qu'il peut apporter. Dans son mémoire, Steve Sherpilo a défini le son selon trois critères qui sont son intensité, sa fréquence et son timbre. Ce sont des facteurs à la fois subjectifs et objectifs, mais ils nous permettent de comprendre qu'en changeant quelques éléments d'un espace, comme son organisation, sa géométrie ou sa matérialité, on peut diminuer fortement les nuisances sonores. Par exemple, pour la matérialité, il est préférable d'utiliser des matériaux poreux comme la pierre plutôt que des matériaux lisses comme le béton. On a aussi de nombreuses réglementations du coup sonores pour la construction, ainsi que des guides pour les constructeurs. Et tout ça, du coup, pour aider à mettre en œuvre ce genre de réglementation. Mais il faut aussi savoir que les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels sont soumis à des exigences spécifiques quant à l'acoustique. Malgré cela, la réflexion sur la dimension sensorielle ne devrait pas se restreindre à quelques lieux spécifiques et encore moins n'être vue qu'au travers de la réglementation. Les façons de traiter le son sont multiples et peuvent assurément apporter de multiples qualités à un espace lorsqu'il est réfléchi.
Alors justement, à travers leur projet, certains architectes nous démontrent à quel point la dimension sonore peut constituer un élément de composition essentiel dans un projet, qu'il soit architectural ou d'un aménagement urbain. C'est le cas notamment de l'architecte Peter Zumthor, qui travaille sur la perception et notamment sur le son, dans le but de créer en fait des atmosphères singulières. Alors c'est un architecte qui travaille, qui associe en fait le son aux fonctions des bâtiments et aux activités qui y sont pratiquées.
Par exemple, dans les thermes de Valls que vous voyez ici, l'architecte joue avec la matérialité du lieu afin que l'écho de l'eau, les voix des baigneurs et leurs déplacements résonnent dans l'espace et viennent créer à la fois une identité et une ambiance particulière. Alors pour le pavillon suisse, qui a été présenté lors de l'exposition universelle de Hanovre en 2000 et qui est destiné à recevoir des musiciens et des spectateurs. Peter Zumthor, là, il s'est inspiré de l'image d'un entrepôt de bois afin de créer une véritable caisse de résonance, en fait, grâce aux qualités acoustiques de ce matériau. Alors, je vais vous citer cet architecte. Chaque espace fonctionne comme un grand instrument. Il rassemble les sons, les amplifie, les retransmet. Ce processus dépend de la forme et de la surface des matériaux et de la manière dont ils sont fixés. Alors, ensuite, il y a aussi l'architecte autrichien, Bernard Ilesser. On peut changer. Lui, il compose, en fait, il joue en fait avec l'espace et la volumétrie de manière à créer des limites et des transitions sonores dans le paysage, notamment dans le parc de la Villette à Paris. Donc son œuvre là, que vous voyez, c'est le cylindre sonore. Il est composé d'une double paroi bétonnée dans laquelle vient s'insérer des haut-parleurs. Et en fait, les sons qui sont émis par ces haut-parleurs, ils sont en fait contenus dans cette forme cylindrique et ils ne sont perceptibles qu'une fois à l'intérieur de l'installation, alors que c'est une installation à ciel ouvert. Alors ces exemples, ces références vous montrent à quel point l'aménagement en fait d'un lieu et sa matérialité vont avoir des répercussions sur sa qualité sonore. C'est pourquoi il faudrait prendre en compte le son en amont dans un projet, parce que finalement, on voit bien à quel point il peut l'enrichir. Et justement, je vais vous montrer un dispositif inventé par l'architecte Nicolas Mazic. Donc, vous allez voir, c'est aussi bien un aménagement urbain qu'un instrument de musique. Normalement, c'est une vidéo, alors... Alors, c'était les orgues marines, en fait, c'est un dispositif qui prend la forme d'un escalier et en fait qui exploite le va-et-vient des marées lorsque l'eau pénètre dans l'escalier. Ça va peut-être marcher. Lorsque l'eau pénètre dans l'escalier, ça chasse. Il y a des tuyaux en fait sous les marches qui produisent du son lorsque l'eau pénètre à l'intérieur. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place dans le projet urbain de la commune de Zadar et ça a permis à la commune de retrouver une identité suite au ravage de la Seconde Guerre mondiale. Non, ça marche pas. Bon, tant pis.
On le montrera peut-être en fin de conférence si ça marche.
Ouais. Ensuite, vous avez... Alors, une autre conception du son, là, le son, il peut être aussi également perçu comme une énergie potentielle, comme une source d'énergie potentielle. C'est notamment ce que pensent deux chercheurs à l'Université de Michigan qui ont inventé des mini-générateurs piézoélectriques. Et voici le projet Urban Transducer qui, justement, s'inspire de cette innovation. Il s'agit d'un immeuble qui est recouvert de bandes métalliques. Et en fait, sous l'effet des vibrations sonores, ça vient produire de l'électricité. Donc, selon pour les concepteurs, ils estiment que ça pourrait produire à peu près 150 mégawatts par heure, ce qui équivaudrait à 10% de l'éclairage public d'une ville comme Los Angeles. Donc, tous ces exemples, c'est pour vous montrer que, à tous les niveaux, que ce soit pour une meilleure perception sensorielle ou pour l'enrichissement d'un projet ou encore pour une solution durable pour la ville, le son, il revêt des multiples qualités lorsqu'il est pris en compte en fait en amont dans le projet.
Donc, pour finir, on va changer à nouveau d'échelle. Donc, on s'est intéressé au concept d'identité sonore. Alors, c'est un concept assez difficile à appréhender parce que les identités, elles sont multiples, elles sont constamment en train d'évoluer. Donc, c'est assez difficile de comprendre ce qu'est une identité sonore.
On a malgré tout trouvé des définitions. C'est un concept donc très, c'est dans la prospective, hein. Notamment la définition de Pascal Anfou, qui est chercheur au Cresson, et qui dit que l'identité sonore peut être définie comme l'ensemble des caractéristiques sonores communes à un lieu, un quartier ou une ville. Concrètement, c'est l'ensemble des sons qui font que la ville donne le sentiment de rester identique à elle-même, et c'est du même coup l'ensemble des sons qui permettent de reconnaître, c'est-à-dire de l'identifier, de la reconnaître, pardon, c'est-à-dire de l'identifier, et par conséquent de la différencier d'une autre ville. Alors on a tout d'abord cherché ce concept dans le cinéma, parce que les réalisateurs utilisent cette idée d'identité sonore comme une aide à la narration, parce qu'en fait chaque ville a un environnement sonore bien particulier, ou en tout cas c'est l'image qu'on en a. Par exemple, dans un film, quand on entend les sirènes de police de New York, ça immerge tout de suite le spectateur dans les rues et dans l'univers de New York. Et voilà, dans le cinéma, c'est un concept qui existe déjà, qui est déjà utilisé. Et par ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions, notamment est-ce que c'est possible et souhaitable qu'une municipalité influe sur le rapport affectif de chaque habitant avec sa ville. Et donc, est-ce que c'est possible? Parce qu'on sait que les environnements sonores, en fait, c'est le fruit de la rencontre plus ou moins chaotique des activités de chacun dans la ville. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et on s'est posé la question, voilà, notamment à Bordeaux, dans une ville qui est en train de grandir, à quelle échelle penser les identités sonores? L'échelle du quartier, de la ville ou de la métropole. Voilà, et donc en conclusion, un petit mot sur nous, et avec nous, ce qu'on a pensé de ce travail et comment on se positionne. Donc nous, on prône un développement vraiment durable des villes qui intégrerait cette dimension sonore du développement, et on pense que dans un contexte d'urbanisation croissante, cette question elle va se poser avec toujours plus de pertinence, parce que les villes vont grandir, vont devenir de plus en plus denses. Et donc, le son, ça va être, enfin, on va devoir se poser la question de quel son on veut, comment, donc, et, enfin, quelle identité sonore, etc. Voilà, donc, je vous invite à nous poser des questions sur, parce que là, on a vraiment développé de manière, très concise. On a parlé des grandes réflexions, des grands axes de notre réflexion. Je vous invite à nous poser des questions et à retrouver notre revue sur le stand du C2D qui est par là-bas, ou sur Internet dans quelques temps. Voilà. Merci. Oui, et on a quelques exemplaires juste ici dans un premier temps pour ceux qui voudraient les consulter dès maintenant.
Là, c'est bon. Oui, les étudiants ont volontairement fait une conférence pas trop longue pour permettre de répondre à vos questions. Donc, ayez le cœur de commencer à leur poser des interrogations pour qu'ils puissent... est-ce qu'on a le son des orgues marines? Bon, ça va vous permettre de prendre le temps de réfléchir à vos questions.
Voilà, du coup, c'était les orgues marines qu'on a essayé de vous montrer tout à l'heure.
Y a-t-il des questions ? Pas encore, oui.
Merci. Une petite question. Les normes sanitaires actuelles sur les sons, est-ce que pour vous, ces normes sont trop strictes ? Il faudrait les assouplir et de ce fait-là, permettre des sons qui sont aujourd'hui, entre guillemets, illégaux, que ces sons puissent être dorénavant légaux et de ce fait valorisés ?
Alors du coup, on a volontairement émis pour cette conférence de trop insister sur l'aspect réglementation du son. Donc c'est vrai que c'est absolument essentiel parce qu'il y a un certain nombre de problématiques de santé notamment qui sont liées à cela. Mais selon nous, les normes en vigueur sont globalement tout à fait respectables, mais je n'ai pas le bon adjectif. Il faudrait les maintenir globalement comme elles le sont, mais justement continuer à développer d'autres aspects, ces aspects sensoriels que nous avons développés dans le respect de ces limitations. On ne dit pas que notre objectif, ce n'est pas de faire tomber justement ces législations et de permettre à la ville de devenir un enfer sonore, mais justement d'insister sur le fait que ces réglementations ont changé vraiment notre perception du son et qu'en en le codifiant, en le réglementant, on l'a un peu réduit à son aspect nuisible. Merci.
Oui, peut-être que vous pouvez justement dire quelques mots dans l'étude sur les différents documents, même si vous les avez évoqués, mais en dire un peu plus sur la partie de ce qui existe en termes de réglementation dans l'étude. Enfin, est-ce que vous vous en souvenez, comme vous ne l'avez pas forcément préparé ?
Ben, on a surtout pas mal de réglementations par rapport au bruit du trafic, ouais. Que ce soit le bruit routier et toute l'isolation des logements qui sont autour des grands axes, par exemple, qui est mis en place. Il y a, par exemple, par rapport au bruit aérien, mais aussi au bruit de voisinage, au tapage nocturne, etc. Il faut quand même respecter... ces réglementations, elles sont là pour la santé, mais il faut... penser à les dépasser et pas justement, comme disait Thomas, voir juste la réglementation et pas plus loin. Quoi.
Alors, dans la pratique, il y a deux textes, on va dire, de référence dans la gestion des nuisances sonores. Principalement, une directive du Parlement européen qui date de 2002, relative donc à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement. Et il y a également une loi mise en place par la France, qui a été en 2003, je crois, qui a globalement... mis en place les fondements des réglementations sonores, notamment en termes de construction, de confort acoustique pour les bâtiments particuliers, comme les hôtels, par exemple, ou les lieux de villégiature. Ensuite, évidemment, ça, c'est des mesures qu'on peut mettre du côté législatif, en fait, parce qu'elles sont faites par des lois et des votes aux assemblées européennes ou nationales. Et sinon, la prise en compte plus directe, on va dire, de la prévention du son, elle se fait grâce à des mesures réglementaires au niveau local. Par exemple, dans le cas de Bordeaux, c'est la préfecture de... Soit c'est la métropole, soit c'est la métropole met en place des plans de prévention du bruit dans l'environnement, qui va bientôt d'ailleurs être renouvelé. Soit c'est la préfecture de Gironde qui met en place justement des arrêtés, des plans de prévention. Et par exemple, un exemple particulier sur la région... c'est l'interdiction de survol de certaines zones à côté de l'aéroport, car le survol faisait dépasser les niveaux légaux justement de volume sonore sur Bordeaux.
Oui, je voulais revenir sur ta question, Chris, sur donc est-ce que ces normes sont trop dures, sont trop strictes? On pense aussi que, en fait, il faut avoir un processus concerté dans chaque quartier, dans chaque zone, parce que, le seuil de tolérance n'est pas le même selon les quartiers, selon les habitants, et c'est important que ce soit un sujet qui est discuté entre la municipalité et ses habitants, Et donc, quand on parlait d'identité sonore, etc., c'est aussi parler de ça, c'est aussi quel seuil on accepte, quel type de son on accepte. Et voilà.
Oui.
Oui, je crois qu'en termes de réglementation, il faut distinguer la réglementation qui traite, par exemple, du monde du travail, où là, vous avez des règles très strictes, par exemple, dans le BTP, sur l'exposition au bruit. Et puis, quand j'entends mon voisin évoquer les sons qui, par exemple, sortent du cadre, ben, il y en a de très simples. Lorsque vous jouez dans un orchestre et que vous êtes devant les trompettistes, c'est pas par hasard si maintenant, dans les orchestres, notamment pendant les répétitions, on développe des plaques de plexiglas devant un certain nombre de musiciens pour qu'ils soient moins exposés à des niveaux de bruit qui sortent du cadre de la législation. Donc on a des bruits comme ça qui sortent de ce qui est normalement acceptable. Après, il y a toute une réglementation sur, vous l'avez évoqué, les bruits urbains. Et sur le site de Bordeaux Métropole, vous pouvez trouver la carte des bruits diurnes et des bruits nocturnes qui sont liés, par exemple, à l'aéroport, qui sont liés à la rocade, avec aussi, dans toute réglementation, des phénomènes de frange. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a une réglementation sur une zone de 300 mètres autour de la rocade, OK, très bien. Mais si on habite à 310 mètres, on n'est plus soumis à cette réglementation. Or, le bruit ne disparaît pas comme ça à 300 mètres.
C'est d'ailleurs un sujet qu'on a aussi évoqué dans notre revue, c'est cette idée de justice sonore. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on superpose des cartes de la richesse des personnes et des cartes d'exposition au bruit, en fait, ces cartes se rejoignent et on voit que ceux qui sont les plus exposés au bruit, c'est souvent les personnes qui sont les moins favorisées. Donc, voilà, on en parle très peu de ça, mais voilà, qui habite en face de la rocade et pourquoi certaines personnes devraient être exposées plus au bruit alors que c'est un vrai enjeu de santé, même ça peut impacter le développement des fœtus, etc. Enfin, c'est quand même.
Et puis il y a aussi les phénomènes, par exemple, la dangerosité d'un bruit est liée au temps d'exposition. Vous pouvez supporter un bruit de 85 décibels. Si vous le supportez pendant 2 secondes, il n'y aura pas de risque de perte d'audition. Par contre, si vous prenez un bruit de 90 décibels pendant 10 minutes, là, il y a un risque de perte d'audition. Et puis, il y a d'autres phénomènes. Par exemple, c'est la tolérance aussi au bruit. Par exemple, le fait d'avoir vidé Bordeaux d'une partie des voitures fait que maintenant, le skateboard sur telle avenue devient absolument insupportable, où les gens qui parlent sur le trottoir, ça devient absolument insupportable, alors qu'il y a 50 ans, c'était masqué par un bruit de fond.
Oui. Par exemple, donc j'ai retrouvé dans notre revue, la loi de prévention du bruit date de 92, mais à Bordeaux, elle n'a pas empêché l'augmentation du nombre de plaintes pour le bruit, par exemple. Donc c'est pas de cause à effet le fait d'encadrer le bruit et de plus se tolérer.
Il y a une question là-bas, en attendant de l'amener, juste deux éléments sur la question de l'enjeu social et de l'enjeu environnemental. C'est ce qu'on appelle la justice environnementale. On avait mené tout un travail dans le cadre de la chaire de Leuze là-dessus, sur le fait que le fait de lutter contre les nuisances environnementales ne se faisait pas au détriment des catégories populaires, bien au contraire. Et ce que vous exposez là en est une preuve supplémentaire. C'est-à-dire que c'est bien ceux qui sont dans les situations sociales les plus défavorables qui ont un impact environnemental le plus fort. Et le deuxième élément, c'est sur le skate, le travail d'Arc en Rêve qui continue sur la place du skate dans l'univers urbain.
Bonjour, moi je suis acousticien à Bordeaux, justement je travaille là-dedans. Et je voulais savoir si pour vous il était de la responsabilité de la métropole d'entretenir certains quartiers, certains endroits où on continuerait à faire plus de bruit que dans d'autres. un peu pour réserver certains endroits à la fête, à la musique, aux expositions, à ce genre de manifestations, puisque la réglementation dit qu'en ce moment, on est très très contraint, et dès qu'on gêne son voisin, c'est à celui qui produit la gêne qu'il doit, il doit se calmer. Mais disons qu'il n'y a aucun endroit pour l'instant que je vois de bien ciblé sur la métropole où on se dirait, ici, ça, on a le droit de mettre le souk, on a le droit de mettre le bazar. Est-ce que c'est un travail qui est en marche? Est-ce que ça pourrait exister, d'après vous?
Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit se décider au niveau du quartier. Et je parlais de concertation, etc. Je pense que là, c'est très important d'avoir vraiment un aval, que la population soit dans, et envie de vivre dans un lieu qui est, par exemple, un lieu de fête. Moi, à titre personnel, je pense que ce serait bien que, oui, il y ait des zones qui soient... il n'y ait pas exactement les mêmes législations qui s'appliquent, sans non plus créer peut-être de zones qui seraient mortes le jour et qui vivraient exclusivement la nuit. Je pense que c'est possible de mixer les usages, mais moi personnellement, je pense que ce serait bien, oui, d'avoir des zones qui seraient un peu particulières dans leur rapport au son.
Excusez-moi, je rajoute juste quelque chose. En fait, ils avaient fait, à un moment donné, ils pensaient justement, je crois que c'était à Bordeaux, mais je ne suis pas sûre, réserver justement une zone pour la fête, pour les endroits, enfin, que pour des activités assez bruyantes. Et en fait, c'était une étude qui avait été menée, et du coup, ça amenait plus de délinquance, en fait, finalement, que d'embêter moins de personnes. En fait, finalement, il y avait plus d'aspects négatifs de réserver juste une zone pour les activités bruyantes. Du coup, je pense que ça rejoint un peu à l'avis de Cécile. Il ne faut pas non plus, enfin, il ne faut pas qu'une zone qui vive qu'à un certain moment. Il faut mixer les activités pour que ce soit, oui, qu'il y ait toujours du passage et qu'en gros, ce soit des zones qui vivent et pas des zones mortes à certains moments.
D'accord. Ok, merci.
Juste, moi, j'en profite pour vous poser une question en tant qu'acousticien, parce que je pense qu'au sein du Conseil de développement, c'est un sujet qui se pose, de savoir... Est-ce que dans certains espaces, on privilégie? Mais ce n'est pas forcément qu'une question de niveau de décibels, c'est aussi tout simplement un type de son qui peut nous gêner. Je pense qu'on se pose la question de savoir est-ce que c'est simplement interdire ou autoriser du bruit dans certains endroits, ou c'est tout simplement dire dans ce lieu, tel type d'activité sonore, et dans tel autre, tel type d'activité sonore. Enfin, moi, pour le coup, l'acousticien, ça m'intéresserait de...
Mais en fait... Il y a deux grands domaines, c'est le logement et puis le reste. C'est-à-dire que dès lors qu'on va gêner des gens qui vont vouloir dormir, ne serait-ce que la journée, puisqu'il y a des gens qui travaillent la nuit, donc ils veulent se reposer le jour, il va falloir leur offrir un environnement, un environnement calme où ils puissent se reposer. Et c'est pour ça qu'il y a autant de réglementations sur le logement, c'est pour protéger les gens. Et moi, de mon côté, je trouve que les valeurs qui sont fixées dans ces décrets et dans ces arrêtés, elles sont bien choisies, puisqu'elles traitent le bruit des équipements, les bruits de choc, les isolements, l'isolement vis-à-vis de l'extérieur. Et ça offre quand même des logements qui sont maintenant très confortables. Après, voilà, effectivement, il y a des zones où on va réserver plus sur du tertiaire, sur des activités qui sont plus professionnelles. Et là, effectivement, on va interdire les permis de construire pour du logement. On va créer ces zones, c'est sûr.
Merci. Si, c'est intéressant. Hein.
Bonjour et merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question que je vais illustrer un peu par un exemple concret. Je suis originaire de Haute-Savoie et chez moi, les vaches font beaucoup de bruit. Apparemment, leurs cloches. Moi, je trouve que c'est un son et pas un bruit. Mais du coup, apparemment, il y a des gens pour qui c'est très gênant. Donc, la question qui se pose un peu, c'est comment on fait? Est-ce qu'on fait comme avec les skateurs, les vaches viennent, mais seulement le mercredi après-midi et le samedi après-midi? Ou est-ce qu'on tranche entre le bruit ou le son? Et du coup, comment on fait pour trancher? Est-ce que ça se fait? Est-ce que... Voilà, c'est vraiment cette question, comment on fait pour différencier le bruit du son, sachant que c'est vraiment très subjectif.
C'est ce qu'on essayait d'expliquer, c'est que tous les bruits en fait sont des sons, mais tous les sons ne sont pas du bruit. Dans l'exemple que vous donnez, celle des cloches des vaches, je pense que pour vous, c'est vraiment un marqueur culturel de Savoie, alors que pour, je ne vais pas dire pour les Parisiens, parce qu'ils sont habitués à être entourés par le son des sons bruyants, mais pour des personnes qui n'aiment pas, on va dire, le son des cloches, pour eux, c'est du bruit. Donc ça dépend vraiment en fait, de nos perceptions personnelles, au final. Moi, je serais plutôt d'avis de prendre votre parti et dire que les cloches sont des sons et qu'il convient justement de les développer pour que ça devienne des marqueurs d'identité en fait, de la Savoie. Dans le cas de Bordeaux, par exemple, il y a des marqueurs sonores. Le CDD avait publié un questionnaire auprès des habitants de Bordeaux et il y avait quelques sons qui ont été sortis comme étant des marqueurs importants de la métropole. Aux deux premiers lieux, je crois que c'était la cloche du tram et son son distinctif. Et en deuxième, c'était le son du trafic. Je crois que c'était ça.
Oui, c'est vrai que...
Oui, donc c'est vraiment... si on arrive à jouer sur les perceptions, sur les représentations que les gens ont d'un lieu, donc, mais en fait, ça voudrait dire mener une vraie politique par rapport au son qui serait englobante, en fait, qui serait pas juste, bon, alors comment les réduire ? Mais qui serait aussi, ben voilà, on a ce son, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut faire un peu d'éducation des gens au son, parce qu'en fait, nous, quand on s'est penché sur ce thème, on s'est bien rendu compte que déjà, c'était la première fois de notre vie qu'on écoutait un peu ce qui se passait autour de nous et qu'on n'était pas seulement dans cette posture d'entendre, mais qu'on écoutait et qu'on essayait de distinguer les différents sons qu'il y avait à un instant T. Et du coup, on a vraiment fait tout ce travail, et je pense que c'est un travail qui gagnerait à être un peu plus fait dans beaucoup d'endroits, et notamment quand il y a ce type de problème, parce que là, donc, vous n'êtes pas d'accord avec des gens qui, eux, considèrent ces sons-là comme du bruit. Et donc voilà, je pense qu'il y a un moment, un choix qui doit être fait à un niveau, et peut-être donc ensuite mener une vraie politique de sensibilisation, de campagne de communication sur ces sons, pour transformer leur connotation.
Est-ce que pour vous, vous menez un travail identitaire, c'est-à-dire que vous recensez les sons, par exemple, vu qu'on est à Bordeaux, vous recensez des sons typiquement bordelais qu'il faut préserver pour préserver... Bordeaux, d'une certaine manière, tel qu'on peut préserver un bâtiment, on peut préserver un paysage, voilà.
Un, deux. En fait, pour nous, oui, ça sera important de développer les identités des territoires, mais ça peut être une identité culturelle, mais dans le cadre de notre étude, ça a été l'identité sonore. Oui, ça nous semble vraiment important pour répondre à une question d'attractivité. En fait, si une réputation, une métropole a une réputation d'enfer sonore, elle ne sera pas attractive, alors que si une autre métropole est réputée pour diffuser des sons agréables aux yeux du grand public, par exemple des sons de nature grâce à la mise en place des parcs. Entre autres, ou la réduction du son du trafic, sur les choses, le son des oiseaux. Pour nous, c'est vraiment important de développer les sons en tant que marqueurs des métropoles. Et c'est à elles, en fait, à leur conseil de métropole, aux collectivités qui la composent, de mettre en place justement ces changements si elles veulent. Si elles veulent se doter d'une identité un peu spécifique. Et vu que la question du son est quand même assez abstraite, mais assez importante, assez novatrice, ça leur permettrait de créer une identité vraiment, vraiment particulière.
Après, quand tu parlais de conservation, en fait, l'univers sonore, il a été dominé pendant des années par la voiture. Aujourd'hui, les centres-villes se vident. Donc... Qu'est-ce qu'on en fait du coup, parce que donc on a de moins en moins ces sons de circulation quotidiennement, et donc notre seuil de tolérance va encore plus baisser. Là, par exemple, avec la piétonisation du pont de Pierre, quand les voitures vont revenir, on va être encore moins tolérant à ces sons, et donc il n'y a pas peut-être de sons à conserver ou Mais en tout cas, parce qu'il faut laisser le champ des possibles ouvert et il faut laisser... voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, il s'éteint tout seul. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a une dimension que vous soulignez et que vous ressoulignez là, qui ressort de ce que vous avez identifié sur l'évolution historique. C'est qu'effectivement, le bruit, il est, je ne dis pas qu'il naît, mais qu'il prend cette place avec l'ère industrielle. Or, dans une société post-carbone, c'est quoi la méthode pour réfléchir au retour du son et en tout cas à une nouvelle approche du son? Il faudra peut-être, c'est l'étape suivante, peut-être qu'on se pose cette question-là, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a probablement aussi une transition historique. Enfin, le fait que vous repositionnez votre travail dans une dimension historique remet en lumière cette dimension.
On ne va peut-être pas revenir aux cloches qui rythment la vie quotidienne, parce que ce n'est plus vraiment l'époque et ce n'est pas forcément le lieu. Mais donc, il ne faut pas juste penser au son du passé, à comment c'était avant la période industrielle. Mais voilà, aujourd'hui, par exemple, les voitures ou les véhicules électriques qui n'auront pas de moteur qui fera un bruit très, très fort, il faudra que ces véhicules avertissent de leur présence. Et donc, par exemple, ça, c'est une discussion qui est en cours. Quels sons ils vont choisir, quels sons quels sons vont être associés à l'arrivée d'un scooter électrique qui donc ne fera aucun bruit, mais pourra se signaler, ou les voitures électriques, voilà, qui seront peut-être des marqueurs sonores du monde de demain, quoi.
Y a-t-il une...
Juste une à propos de ce que vous parlez de voiture, moi j'ai été frappé, et vous pourrez l'écouter, la balade de Marc, qui nous a fait une balade à l'aveugle, puisqu'il est aveugle, et vous pouvez écouter sa balade. Et j'ai été frappé par une anecdote. Il nous dit, tiens, on vient d'être dépassé par une voiture sans permis. Eh bien, nous, la voiture sans permis, on n'a pas besoin de l'identifier par son son, puisqu'on la voit. Mais lui, ben son repère, c'est le bruit particulier de la voiture sans permis. Voilà. Et il y a des gens comme ça, Marc, qui a développé une oreille absolument fantastique, puisqu'il est capable de vous dire, tiens, on vient d'être dépassé par des vélos, et celui qui était à vélo était en même temps avec son téléphone portable. Bon, donc voilà, tout ça pour vous inviter à aller écouter les balades à l'aveugle faites par des aveugles dans Bordeaux, qui sont assez révélatrices de la capacité du ouï qu'on a un peu oublié.
Oui, je me rappelle qu'au tout début de notre travail, on avait participé à un workshop du CDD sur les sons de la ville, pas que notre groupe de travail, mais également plein d'autres étudiants, et on avait rencontré Marc. Qui était vraiment passionnant et qui nous avait exprimé notamment son inquiétude par rapport à la disparition des sons des voitures, parce que pour cette partie de la population, donc les aveugles, les déficients visuels, la perte des sons urbains correspond à une perte de leurs repères, en fait. Et c'est vrai que l'expérience de Marc est tout à fait intéressante, et je peux que vous encourager à aller écouter ce qu'il a à vous raconter. Merci.
Merci. Oui, vous parlez des voitures, mais vous oubliez les vélos électriques. Et je dois vous dire que ma femme est malvoyante et c'est sa terreur actuellement. Il circule sur les trottoirs même. Alors là, c'est catastrophique.
Ça montre bien, effectivement, ce que vous soulignez, c'est qu'on a une nouvelle grammaire à réécrire, une grammaire sonore de l'ère post-carbone, enfin, où effectivement, il n'y a plus de bruit de moteur, c'est des bruits électriques.
Il y a d'ailleurs, pour poursuivre un petit peu, il y a d'ailleurs des designers sonores qui commencent à se pencher sur la question et à créer des sons pour les voitures électriques, les vélos électriques, justement parce que au-delà des mal ou des non-voyants, les voyants tout court qui n'entendent pas une voiture arriver, du coup, vont spontanément poser le pied sur la chaussée, alors qu'il y a effectivement des véhicules qu'on n'entend pas qui arrivent. Donc maintenant, on va leur donner artificiellement des sons.
sauf s'il y a vraiment une dernière question, on va peut-être respecter l'horaire et s'arrêter là. Vous redire donc l'espace du C2D, vous pouvez y trouver ces balades à l'aveugle qu'on a faites, il y en a trois, qui vous immergent dans certains espaces de Bordeaux et de la métropole où vous allez essayer de deviner où vous êtes, mais sans le voir. Également une carte sonore où on a essayé d'identifier l'ensemble, un grand ensemble en tout cas de sons sur la métropole, et donc vous pouvez vous-même contribuer à apporter votre propre son sur cette carte, qui est une carte qui est sur internet ensuite et qui donc donne cette identité dont on parlait tout à l'heure sonore. Et si vous voulez suivre ce travail, puisque là c'est une étape intermédiaire qu'on vous présente, mais ensuite il y a un travail mené par les citoyens du C2D pour essayer d'identifier à la fois ce qu'il peut faire une identité sonore du territoire, mais aussi dans les différentes politiques de la métropole, comment on pourrait mieux prendre en compte cette dimension. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Donc, soit ici à la fin de l'atelier, on a un papier pour prendre vos coordonnées, soit sur notre espace, qui est donc entre l'agence d'urbanisme et le coin où il y a une documentation de la direction de l'aménagement et l'urbanisme. En général, les gens s'arrêtent, donc passez derrière, non pas le miroir, mais la pile de livres, et vous pourrez justement écouter plutôt que voir certains nombres d'éléments du paysage sonore de la métropole. Merci.
Merci beaucoup. On voulait vous remercier le C2D et Agora pour nous avoir permis de présenter nos recherches dans ce cadre magnifique. Et vous remercier à tous de votre attention. Merci beaucoup.